Bienvenue dans La Confidence, le podcast mariage qui accompagne les futurs mariés tout au long de leurs préparatifs. Récits de mariage, conseils de jeunes mariés, recommandations de prestataires, partage et bien sûr, confidence. Je suis Lorraine Golvan, mariée 2021, et je te donne rendez-vous chaque mercredi matin pour un condensé d'inspiration. Si tu prépares ton mariage en ce moment, abonne-toi, ce podcast va devenir ton meilleur allié. Avant de lancer l'épisode, je voulais te dire 2-3 choses. Déjà, on m'a demandé de prévenir en amont quand cet épisode sortira, ou plutôt d'avertir sur le contenu, parce que dans le teaser de cette saison, j'ai glissé quelques extraits forts tirés de l'épisode qui va suivre, et j'ai reçu plusieurs réactions qui sont tout à fait légitimes, notamment des futurs mariés qui vivent un moment pas facile et pour qui le sujet de la maladie ou de la perte d'un proche est bien trop sensible à l'heure actuelle. Alors j'avais promis que le titre de l'épisode serait très clair et que je ferais aussi un avertissement en intro. Sans trop te spoiler, je peux quand même te dire que c'est un épisode plein d'amour et qui se fait en 3 parties, avec à chaque fois le petit interlude musical habituel, comme ça tu peux te repérer facilement, et on aborde le sujet de la maladie qu'à la 3e partie. Donc le début de l'interview, tu peux l'écouter tranquillement, c'est vraiment plein de fraîcheur, avec des passages franchement drôles, qui plantent le décor du mariage complètement dingue de Caroline et Jeff, son bel Australien qu'elle a failli kidnapper. D'ailleurs, j'annonce déjà, on va suivre Caroline sur plusieurs épisodes, tellement il y a de choses à raconter sur leur mariage, et c'est ce qui m'amène au 2e point. Certaines vont être surprises de voir la sortie de cet épisode, parce que c'est un sujet pour lequel j'ai déjà reçu plusieurs demandes de témoignages, des mariés qui me contactent pour me raconter leur histoire, leur chagrin, leur envie de partager ça à mon micro, parce qu'elles-mêmes ont manqué de témoignages dans ce sens. Et à chaque fois, j'ai refusé. Parfois, je prenais le temps de raconter ma situation personnelle, et puis d'autres fois, j'expliquais juste que je ne me sentais pas à l'aise à l'idée de dédier un épisode entier sur ce sujet. Mais je vais quand même partager ça avec vous aujourd'hui. Mon père est décédé très peu de temps après l'annonce de nos fiançailles. On a donc organisé notre mariage en sachant dès le départ qu'il manquerait quelqu'un parmi les très proches. Chaque histoire est différente, chaque famille et chaque relation le sont aussi, évidemment. Toujours est-il que quand je vous disais que je n'avais pas du tout prévu de dédier un épisode sur ce sujet, c'était vrai. Mais ça s'est fait comme ça, au fil de notre conversation. J'étais bien sûr au courant de la situation de Caroline, je savais qu'on allait aborder le sujet ensemble, mais je pensais sincèrement que ça ne serait qu'un passage dans un épisode plus global. Donc, à celles qui vont se demander « mais pourquoi elle a refusé mon récit ?», ne le prenez pas personnellement, je vous assure que rien n'était prévu. Mais en tout cas, je suis très contente de pouvoir aborder ce thème aujourd'hui, de façon aussi naturelle et spontanée, à travers le récit de Caroline. Et surtout, surtout, j'espère que ça apportera beaucoup de réconfort à celles et ceux qui en ont besoin. Allez, j'arrête cette intro interminable, place à l'épisode. Bonjour Caroline.
Salut Lorraine.
Je te souhaite la bienvenue à mon micro et chez moi.
Bah merci.
Enfin, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est toute une histoire pour qu'elle
ait... Ça fait 6 mois qu'on essaye de
Facile, ouais.
On a vraiment essayé, mais ça y est, on y est.
J'ai reçu des mails, j'ai checké pour préparer l'interview. Les mails, ça date depuis presque 1 an.
Ouais, tu te rends compte?
Tout début février.
Ça passe vite. Hein.
Voilà, donc on est 1 an sur le dossier mariage. Écoute, merci d'avoir accepté de nous mettre dans la confidence de l'organisation de ton mariage. Pour commencer, je voulais juste prévenir les auditrices et auditeurs. Il va y avoir plusieurs épisodes tellement il y a de sujets abordés autour de ton mariage.
Oups.
Donc je vous en dis plus au fil de la conversation, vous allez voir quelle partie on va sortir et... vous allez voir, je vous fais un petit teasing mais juste léger là. Pour commencer, on est là pour parler d'organisation de mariage. Est-ce que tu peux te présenter et nous faire un récap de ton mariage, quand et où il a eu lieu, le nombre d'invités et le style du mariage? Je sais que tu avais un dress code et même un thème particulier, ça me fait plaisir, dis-moi.
Ouais, donc moi c'est Caroline, j'ai 33 ans, je me suis mariée le 30 juin 2023. Et donc avec Jeff qui est australien. Donc lui, c'est un 100% australien. Il a grandi dans l'outback. Ses parents ont une exploitation de moutons. Donc vraiment le cow-boy australien que tu peux imaginer. Et donc ça a été assez long d'imaginer où est-ce qu'on voulait faire notre mariage pour commencer. Et on l'a fait dans notre propriété familiale qui est depuis plusieurs générations dans ma famille, dans le Médoc, à côté de Bordeaux, à peu près à 45 minutes de Bordeaux. Donc le thème, en fait, j'ai contacté Lorraine en pensant que le thème, c'était le gros truc de mon mariage parce que c'était un mariage à chapeau. Et en fait, c'est le truc qui n'a pas été vraiment important. Enfin, tout le monde est arrivé en chapeau, mais c'était tellement noyé avec tout ce qui s'est passé autour.
Mais hommes et femmes, les deux déjà.
Et voilà, et c'était un mariage à chapeau pour les deux. Mmh. On trouvait ça vraiment chouette d'avoir un dress code pour que les gens aient quelque chose sur lequel... parler et s'introduire, enfin, ah, j'adore ton chapeau, on trouvait ça sympa. Et le thème de notre mariage, en fait, en Australie, on adore ce qui s'appelle le Farmer's Market. Donc, c'est un peu comme les marchés français, mais en 100 fois mieux. Donc, il y a beaucoup de musique, il y a souvent des live bands. Et en fait, quand sur les marchés français, tu sais, t'as des étals et tu fais vraiment tes courses, sur les marchés australiens, c'est vraiment, t'as plein de petits étals, mais c'est pour consommer sur le moment. Donc, tu vas avoir plein de coffee carts, tu vas avoir, enfin, pour prendre ton café, tu vas avoir des trucs pour manger tout de suite et les gens s'installent sur l'herbe à écouter de la musique. Et c'est vraiment très frais, c'est plein de familles, tout le monde court, tu vois, les enfants. Enfin, c'est très champêtre et jovial et du coup, on voulait vraiment recréer ça pour notre mariage.
C'est uniquement food ou il y a aussi...
Il y a vraiment tout, des petits bijoux, du craft, il y a vraiment, il y a plein de fleurs séchées. Enfin, c'est vraiment, tu sais, l'ambiance un peu, tu rentres dans un film un peu, tu sais, de Noël, quand ils font ça, version Noël, bah nous c'est un peu version été en Australie et vraiment c'est, on adore, c'est souvent les dimanches ou le samedi et on y va tout le temps, donc on voulait vraiment ça pour notre mariage.
Est-ce que, j'ai deux questions qui viennent là, est-ce que vous avez déjà fait un mariage peut-être en Australie dans ce style-là, dans cette ambiance-là ?
Non, enfin, en Australie, les mariages sont beaucoup moins pompeux qu'en France. Mmh. C'est vraiment du relax. Moi, j'ai déjà vu... alors, j'étais serveuse dans les mariages en Australie.
Ok, donc t'en as vu pas mal.
Donc, j'en ai vu beaucoup et j'ai déjà vu des gens arriver en short et enfin en bermude au mariage. Mmh. C'est normal, tu vois, ça choque personne. J'ai déjà vu des mariages où ils font des barbecues, donc c'est vraiment...
D'ailleurs, qui est arrivé comme ça à ton mariage ?
I know, oh là là. Mon vidéaste qui est arrivé en short.
Australien, lui, pour le coup.
Non, il était français,
Attends, il s'est renseigné sur comment c'était en Australie ou il est comme
ben,
ça.
Je sais pas, mais quand je l'ai vu arriver en chant, j'ai fait « Oh, bordel
!» Ok, ok.
Mais bon, franchement, il a fait une vidéo de ouf, donc on peut quand même dire qu'il
était... Et on le voit pas sur les vidéos, l'avantage.
Et le mec, je l'ai pas vu de tout le mariage. Donc, le gars le plus discret du monde. Donc, et comme dit maman, elle a dit « Au moins, on pouvait pas le confondre pour un invité, donc bon, c'est pas plus mal. » Mais oui, en Australie, c'est hyper relax, les mariages. Et nous, on voulait vraiment ce côté hyper relax. Mais ma famille est quand même assez catho, tradi, bonne famille. Donc, il fallait aussi jouer un peu le côté pompeux, mais sans le côté, justement, pompeux. Il fallait les traditions.
Ok, c'était voilà. Ma deuxième question. Est-ce que la partie française ou européenne, on va dire, parce qu'on verra après d'où venaient les invités, est-ce qu'eux ont compris l'esprit Farmer's Market que vous posiez pour le mariage ?
Ouais, je pense qu'on avait bien expliqué en amont ce qu'on voulait. Et on avait vraiment... comme j'avais déstructuré beaucoup de choses dans mon mariage, par exemple, nous, on a fait un déjeuner de mariage plutôt qu'un dîner de mariage. Donc, les gens savaient que ce serait de toute façon pas un copier-coller de tout ce qui a été fait dans ma famille. Ils me connaissent, ils savent que je suis un peu différente de tout le monde. Donc, ils s'attendaient à rien, je pense. Ou à beaucoup de choses, surtout. et donc, ils n'ont pas été déçus. Voilà. Mais oui, il y avait plein de choses françaises. Par exemple, en Australie, c'est très commun de pas du tout faire de dîner assis, enfin de repas assis, et de faire juste des food trucks, etc. Moi, je sais que pour ma famille, c'était vraiment important d'avoir quelque chose d'assis, avec un service à table. Donc, on a vraiment essayé de mélanger les deux, et ça a super bien marché.
Bon, on va voir justement comment mixer les deux nationalités, les deux ambiances, les deux visions du mariage aussi, parce que souvent il y a deux familles qui ont chacune leur vision, mais là c'est carrément deux nationalités, deux bouts du monde à l'opposé. Donc on va voir comment on fait un doux mélange de tout ça. Et le nombre d'invités, tu m'as pas dit, vous étiez
oui,
combien ?
Oui, donc on était 90, en fait on a invité, Lorraine, tiens-toi bien, 325 personnes. On s'est dit, on invite tout le monde, parce qu'on savait que comme on le faisait en France et que la plupart de nos potes sont à l'international, mais vraiment au bout du monde, on pensait vraiment qu'il y aurait personne qui viendrait. Et donc moi, j'ai fait tous mes budgets, mes devises sur 60 personnes. Donc je pensais vraiment qu'il y aurait 60 personnes, voire même 40, entre 40 et 60.
Attends, sur 325 ouais, invités, tu disais 60 personnes.
Mais oui, parce que
okay.
Les gens n'ont pas le budget. Enfin, c'est vraiment une fortune, quoi, de venir jusqu'en France. Il faut savoir qu'un billet d'avion aller-retour France-Australie, c'est 2 000 euros, quoi, dans la période des vacances d'été. Donc, on pensait vraiment qu'il n'y aurait pas autant de monde. Et en fait, on a eu énormément de gens qui sont venus. Enfin, bon, 90, ça reste un chiffre quand même très correct. Et ce qui a été génial, c'est que j'ai vraiment demandé à mes parents de vraiment pas inviter beaucoup de monde et de vraiment se caler sur le nombre d'Australiens, d'internationaux qui venaient pour que ça fasse moitié-moitié. Parce que je ne voulais pas que, voilà, Jeff, il ait 10 personnes qui arrivent et nous, on est toute la famille, toute la France.
Mmh. C'est un bon conseil, ça aussi, avoir en tête, ouais, quand on fait dans un pays, enfin le pays d'origine de l'un des deux mariés, de garder quand même en tête que l'autre partie de la famille et amis sera forcément moins nombreux, donc pas étouffer tout ça, ouais, je comprends.
Ouais. Et en fait, ça s'est vraiment bien balancé parce que moi, j'avais finalement pas beaucoup, j'avais une dizaine d'amis, mais j'avais beaucoup de famille, et lui, il avait 30 amis et qu'une dizaine de famille, et du coup, on était vraiment parfait en équilibre, mais pas du même, enfin voilà, c'était vraiment chouette.
Super. Alors, puisque tout mariage commence par une rencontre, est-ce que tu peux nous parler de Jeff, le marié? Comment vous êtes rencontrés?
Oui, alors nous, c'est un peu drôle, à 27 ans, j'ai eu un peu une crise existentielle, j'étais dans la pub et j'avais l'impression que j'avais pas de sens dans mon métier, je mentais à tout le monde, je vendais des trucs qui avaient pas de sens, donc j'ai tout lâché, j'ai pris un aller pour l'Australie avec une seule nuit d'hôtel réservée et je me suis dit je vais refaire ma vie en Australie et donc j'ai atterri sur la plage de Bondi, pour celles qui connaissent, c'est un peu l'Eldorado australien et donc voilà, je cherchais un mec parce que j'adore les Australiens, je les trouve trop beaux. Et puis c'est pas arrivé et j'avais déjà 28 ans, je me disais vraiment j'ai envie de me poser, j'ai envie d'avoir des enfants et donc je me suis dit fais comme dans la pub, c'est du chiffre. Donc j'ai pris Tinder et je me suis dit je vais faire des entretiens d'embauche pour mon mari et donc j'avais 3 voire 4 dates par semaine alignées, c'était des cafés le matin pour pas qu'il se fasse d'idées et je leur posais des questions, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi que tu cherches dans ta vie, ça me permettait d'écrémer.
Je comprends mieux toute la suite qui arrive, vous allez voir.
Mais ouais, non, mais c'est. Mais en fait,
donc
moi,
on
c'était.
On coche des cases.
On coche des cases.
Après, on
et
donne
il fallait.
Score, ou...
Voilà, exactement. Et en fait, est arrivé Jeff. Donc, le mec, trop beau. Il correspondait à tout. Et vraiment, lui aussi, il cherchait quelqu'un pour se poser dans la vie. Donc, c'est assez rare, tu vois, que t'as un mec qui te dise d'emblée que c'est ce qu'il cherche. Il avait les mêmes valeurs. Enfin, on était vraiment tous alignés. Donc, on s'est vus pendant quelques fois. Et puis, lui, ça n'a pas matché de son côté. Et là, je me suis fait une grosse remise en question, en mode, tu vas avoir 30 ans, t'as jamais eu de mec de ta vie, à un moment, il faut peut-être te poser des questions. Et je regardais sur mon feed Insta, en mode, en train de pleurer, je vais jamais avoir de mec. Et en fait, est arrivé le dieu Insta de l'algorithme qui m'a proposé une pub sur un gourou londonien qui propose un séminaire en ligne, qui s'appelle, en gros, c'était « Vous avez aucun mal à rencontrer le mec, mais vous avez du mal à le garder. » Et j'étais là « Mais oui, c'est moi, je rencontre des mecs tout le temps, mais j'arrive pas à les garder, quoi. » Et en fait, c'était, donc, à l'époque, j'étais serveuse dans les mariages, donc je gagnais pas beaucoup. J'ai mis toute ma paye, tout ce que j'avais dans ce séminaire, qui était 11 heures. En ligne, et ça a été le meilleur truc de ma vie. J'ai vraiment appris la psychologie masculine, ce qu'il cherchait chez quelqu'un, c'était incroyable. Et alors, j'avais complètement perdu contact avec Jeff, mais la Providence nous a remis, en fait, mais vraiment par hasard, sur le chemin l'un de l'autre. Et donc là, j'ai pu appliquer tout
c'était
ce que j'avais
appris.
C'était
quoi, genre des leçons sur comment décrypter, communication?
C'était par exemple, tu vois, des trucs tout cons. Par exemple, il disait l'erreur que les femmes font avec leurs copains quand elles sont à fond, c'est qu'elles veulent que quand elles sont avec leur mec, il soit à fond sur elles. Donc il doit tout lâcher. Sauf qu'un mec, s'il se dit à chaque fois je dois tout lâcher, à chaque fois je suis avec elle, et ben je vais arrêter de l'avoir parce que j'ai pas le temps en fait. Je dois faire mes trucs pour le boulot et donc il va l'avoir de moins en moins et finalement il va plus l'avoir. Alors là il disait prenez un livre quand vous êtes avec votre mec et dites oh il faut que je lise ce chapitre. Et en fait du coup il va se dire ah mais attends je peux être avec elle et faire mes trucs pour le boulot. Donc moi je sortais toujours mon livre quand j'étais chez lui et ça a trop bien marché parce que du coup dans sa tête, il s'est dit, tiens, En fait, elle fait partie des meubles, quoi. Enfin, c'est assez péjoratif de dire ça. Mais plein de petites choses. Il donnait aussi des conseils trop stupides, mais ça marche trop bien. Par exemple, il disait, apprends le prénom de sa maman assez vite. Et sa maman s'appelle Maureen. Et en fait, tu lances dans la conversation, comment va Maureen et tout. Et dans sa tête de mec, il se dit, oh, elle s'entend déjà bien avec ma mère. Et donc, ça te met tout de suite dans la position de femme plutôt que d'amante, okay. quoi, tu vois. Donc, plein de petits trucs où, par exemple, quand un mec te dit, je suis pas prêt, il faut le croire. Parce qu'en fait, ils ont un blueprint qui s'appelle un chemin de vie qui est beaucoup plus caractérisé que le nôtre. Et même s'ils rencontrent la bonne personne, mais qu'ils sont pas prêts, ils vont pas. Enfin, voilà. Il y a plein de choses comme ça. Mais c'était hyper intéressant.
Il y a un nom de ça, ça existe encore?
Oui, ou... alors ça s'appelle How to Keep the Guy de Matthew Hussey, qui est un gourou londonien qui est incroyable. C'est 11 heures de séminaire, ça coûte 300 australiennes dollars, donc à peu près 250, tu vois.
Okay.
Et franchement, si vous n'arrivez pas à trouver l'homme de votre vie, faites-le. Moi, ça a trop marché.
Parce que je sais que j'ai des filles qui écoutent le podcast, qui n'ont pas du tout de projet mariage ni quoi que ce soit, mais qui se préparent un peu dans l'occasion où.
Et d'ailleurs, ils donnent des conseils pour comment passer de petite amie à femme potentielle. Et vraiment, moi, ça marchait. Et au point que je l'ai dit à Jeff à un moment, je lui ai dit, voilà, parce qu'il me dit, t'as trop changé depuis que je t'ai vu l'autre fois. Et je lui ai dit, j'ai fait ça. Enfin, après, quand on était vraiment ensemble. Hein. Et il m'a dit, ah ah ah. Et en fait, il a regardé parce que j'avais pris des notes, j'avais fait le séminaire deux fois pour être sûre que j'avais rien oublié. Et il m'a dit, mais en fait, il a été choqué de voir la qualité
des conseils
quoi. Ouais. C'était incroyable. Donc, pour que lui soit choqué, c'est te dire.
C'est non. Trop drôle. Franchement, ouais. Je m'attendais pas à ça. Mais génial.
Voilà.
Et alors, à quel moment vous avez commencé à parler de mariage?
En fait, tout de suite, parce que moi, quand on s'est revus...
Ça faisait partie des critères du first date, la grille...
Mais quand on s'est revus par hasard, c'était 4 semaines avant que je parte, parce que j'avais plus de visa pour l'Australie, ça faisait déjà 2 ans, et mon visa se périmait, et donc on est tombé amoureux en 4 semaines, et je lui ai dit, écoute, moi je m'en vais. Et il m'a dit, non, tu peux pas partir, maintenant que je t'ai trouvé. Enfin, il était vraiment amoureux. Et je lui ai dit, mais attends, dans ton pays, si je pars pas, on va me déporter, je vais être interdite 5 ans. Et en fait, il m'a dit, c'était comme dans un film, quand il m'a dit, tu sais quoi, je viens en France avec toi. Et j'avais même pas pensé que c'était une option. Et donc, il a tout lâché pour venir en France. Mais je lui ai dit, par contre, moi, j'ai pas vu ma famille, mes amis depuis 2 ans. On va faire la tournée des Grands Ducs. Si tu viens et que je présente quelqu'un, c'est que c'est sérieux. C'est que tu vas me demander en mariage.
Je suis allée lui dire, prends un livre, mets-toi dans un coin. Cette fois-ci, c'est moi qui vis ma vie.
Mais justement, moi, j'allais passer l'été dans le château qu'on a, la propriété familiale, avec tous mes oncles, mes cousines, mes grands-parents. Enfin, donc, je lui ai dit, tu es bien d'accord, si tu viens, c'est pas pour des vacances, quoi. C'est on va se marier, on va avoir des enfants. Et je l'ai répété 2 fois parce qu'il me dit, ok. J'ai dit, non, t'as bien compris. Il m'a dit, oui, j'ai bien compris, on aura des enfants. J'ai fait, ok, c'est bon.
Parce que fiancé, comme ils disent là-bas, c'est pas le même truc que nous.
Ouais, exactement.
C'est genre le girlfriend, mais plus sérieux.
Voilà.
On vise des choses, mais on n'a pas encore lancé le processus vraiment d'organisation du mariage.
Exactement.
Est-ce que là, il y avait un...
Nous, on s'était même pas dit je t'aime quand j'ai eu cette conversation. Ah. Donc, c'était vraiment... Et là, en fait, donc, il a rencontré tout le monde. Si tu vois, on était ensemble, mais on était vraiment rien de sérieux. Là, il a rencontré tout le monde. Ma mère, elle lui a bien mis la pression en mode t'as bien compris dans quoi tu t'engages. Parce que pour mes parents, en fait, ça a été difficile de se dire c'est un mec qui vient de l'autre bout du monde. Ça veut dire qu'elle va vraiment faire sa vie là-bas. Donc, tu vois, t'es loin, quoi. Et en fait, mon papa, il a vu plein de ses potes qui se sont mariés, notamment avec des Africaines ou des gens qui venaient de d'autres pays. Et il a vu que ça se finissait pas toujours bien. Au début, c'est toujours rose. Mais c'est après, quand tu vas vraiment dans le dur du sujet, est-ce que t'es alignée? Est-ce que t'as les mêmes, tu vois? Donc, il avait très peur là-dessus. Et donc, ils l'ont bien mis la pression, mais il a bien tenu. Tout le monde l'a adoré. Et ensuite, il y a eu Covid. Et donc, nous, on était à longue distance. Donc moi, je travaillais en France, puisque j'avais toujours pas de visa, et on se voyait à peu près tous les 6 mois.
Lui était rentré, du coup.
Lui était rentré. Okay. Et en fait, parce que lui n'avait pas de visa pour la France. En fait, les Australiens, ils peuvent rester que 3 mois, donc il est resté les 3 mois de okay. l'été. Et après, il a dû rentrer, il pouvait pas. Et en fait, après, il faut attendre 6 mois pour retrouver les 3 mois. Donc on était à chaque fois comme ça. Et moi, j'ai fini mon contrat le 6 mars 2020 au boulot, et on devait se retrouver à Bali. Et donc lui, il a fait la première partie du voyage, il est allé à Singapour pour prendre son vol, sauf que là, ça a été Covid. Et en fait, Singapour est devenu blacklisté dans le monde entier personne ne voulait prendre des gens qui venaient de Singapour, donc ils pouvaient plus aller à Bali. Et moi, du jour au lendemain, mon vol a été annulé en disant la France a été blacklistée très très vite. En mode, en fait, on prend pas de gens qui partent de Paris puisque vous avez tous le Covid, quoi. Et là, on a vu le moment où on pouvait pas se retrouver, quoi, dans le monde. Et donc, il a pris une carte du monde et il a regardé pays par pays quels sont les pays qui sont pas blacklistés. Donc, on a regardé le Liban, enfin, où est-ce qu'on peut se retrouver, quoi. Et il a vu Thaïlande. Donc, il m'a dit, tu vas tout de suite à l'aéroport, tu prends le vol avant qu'il l'annule, quoi. Donc, j'ai foncé dans un vol pour Bangkok. Non, on s'est retrouvé à Kuala Lumpur, pardon. Mmh. Ça passait par Bangkok, mais... Et lui, pareil, de Singapour, c'était une demi-heure de vol, donc facile. Et en fait, moi, j'arrive à l'hôtel en mode, on avait booké, tu vois, une semaine en se disant, bon, on va se poser là. Bon, Kuala Lumpur, en plein Covid, c'était chaud quand même, je vais pas te mentir. Et là, en fait, on a vu que les US fermaient leurs frontières. Et il m'a dit, on prend... tout de suite le vol, refais tes valises. Je dis, mais je viens d'arriver dans mon vol, faut que je dorme, quoi. Il dit, non, tu prends tout de suite, parce que je pense que l'Australie va faire la même chose. Et on a pris le vol ce soir-là, genre une heure après, on était dans l'avion. Et en fait, j'étais une des dernières vols à arriver en tant que touriste en Australie, parce que juste après, ils ont fermé les frontières. Donc nous, on a eu plein de coups comme ça, qui étaient en longue distance, qui sont pas vus pendant... Il y en a qui n'ont pas survécu. Et je pense que honnêtement, on n'aurait pas survécu si... Donc on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Mmh.
Ouais. Parce que sinon tu repartais, enfin ouais.
Bah ouais, tu fais quoi? Moi j'aurais toujours pu rentrer en France, j'étais ressortissante française, tu vois. Mais ça voulait dire que en fait, si je pouvais pas rentrer en Australie en tant que visiteur, en tant que touriste, bah je pouvais pas rentrer du tout. Donc qu'est-ce que tu fais, quoi? Jeff, il pouvait pas aller en France. Tu vas pas rester à Kuala Lumpur en plein Covid, quoi.
C'est vrai.
Ouais, c'était chaud et on a eu trop de chance. Vraiment, merci, merci Dieu. Et donc le Covid, on s'est installés ensemble. Moi, j'étais en tourisme visa, je pouvais pas bosser, donc j'avais qu'une obsession, c'était mon mariage. Mmh. En plus, j'étais coincée avec lui, il pouvait plus rien faire. Maintenant, il fallait qu'il m'épouse.
Et bien, on était quoi, fin 2020?
On était juillet 2020. Le 10 juillet, il a fait sa demande sur la plage de Mondaï au lever de soleil, parce que moi j'adore regarder le lever de soleil. C'est ma plage préférée. Et il avait booké un photographe. Et alors ça, gros conseil, parce que c'est mon frère qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, surtout si tu vois que Jeff va te faire sa demande, garde la surprise, ne dis rien. Et donc moi j'avais un peu compris et j'ai rien dit. Et encore aujourd'hui, il pense que voilà, je savais pas du tout, alors que je m'en doutais, mais c'était trop bien. C'était trop chou. Et surtout...
Attends, parce que l'avantage, c'est qu'il parle pas du tout français. Donc non. Là, ce qu'on se dit, il le saura jamais.
Bah, c'est ce que je me dis, mais je réfléchis. Peut-être mes enfants, un jour, ils écouteront, ils diront à snitcher à leur père. Les enfants, si vous écoutez, ne racontez pas ce que vous entendez. Ouais.
Ok, donc la demande sur la plage australienne. Très cliché, ouais. Mais en même temps, on aime, on adore. Ouais. Et la bague pour faire cette demande.
Bah la bague, donc en fait il était dans les vagues et puis il a ouvert la boîte et il y a une vague qui est arrivée, qui l'a smashé dans le dos et il a failli faire tomber la bague. Il a eu un mouvement de oh! Et moi je lui avais toujours dit, écoute, si tu me demandes en mariage, franchement prends une bagouze, quoi, pas un vrai truc, parce que je suis tellement difficile en bague, on pourra la choisir ensemble. Et comme il a eu tellement peur que la bague tombe dans les vagues, je me suis dit, oh merde, c'est une bride, parce que tu vois, si c'est une bagouze, t'as pas si peur que ça. Et en plus, après, le photographe qui était embusqué, qui est venu nous féliciter, etc., il lui a dit « Ah, la bague !» Enfin, du coup, je l'avais au doigt, il a regardé, il a dit « Oh, c'est quoi comme cut? C'est quoi comme cara ?» Et Jeff, très à l'aise, lui a dit exactement ce qui se passait. C'est Princess Cut, je sais pas quoi, là. Ou je sais plus ce qu'il a dit. Mm-hmm. Et du coup, je me suis dit « Mais incroyable, enfin, il m'a pris une vraie bague !» Donc, j'étais comme une folle et tout. Et en fait, c'est une bague Lovisa à 19,99 Australian Dollar, donc ça fait 15 euros en France. Mais elle est tellement bien faite. Et alors, pour la petite histoire, c'est que du coup, elle est vendue, tu sais, dans des trucs comme chez Claire's, quoi. Il n'y a pas du tout de boîte. Mmh. Et moi, il savait que je voulais absolument le genou à terre avec la boîte qui s'ouvre. Donc, apparemment, il a fait tous les bijoutiers de Sydney pour que quelqu'un veuille bien lui... pour qu'il puisse acheter une boîte, parce que les gens, ils veulent pas t'offrir une boîte avec, tu sais, leur marque, si c'est pas leur marque. Et puis, il y a quelqu'un qui a pris pitié de lui et donc, il lui a offert une super boîte en bois magnifique et tout. Donc, vraiment, c'était top.
Donc, t'as dit oui tout de suite.
J'ai dit bon. Oui tout de suite. Surtout qu'il m'a dit, ton père a déjà... J'ai demandé de la main à ton père. J'étais, quoi? Mais comment? En fait, il avait skypé 2 jours avant pour faire sa demande.
Et le côté tradit que tes parents voilà, voulaient dans ce
exactement. Donc ça, j'étais... Oh là là, j'ai pleuré. Pleuré. Trop beau.
Un bon point pour lui. Et alors, à quel moment, enfin, quand est-ce que tu as commencé à organiser le mariage, toi, tout de suite?
Bah, 6 mois avant.
Hein. 6 mois avant, ouais.
Depuis que
Tu
je suis
avais
née.
quoi déjà de booké le lieu, tu savais?
Non, 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 tout ça, je savais pas parce que moi, je m'étais dit vraiment, j'attends que ce soit vrai. Mais j'avais vraiment regardé toutes les. J'étais obsédée par l'émission qui s'appelle Say Yes to the Dress. Je sais pas si tu connais. C'est une émission américaine où tu arrives avec tout ton entourage pour essayer 4 robes et à la fin, tu repars avec ta robe et voilà.
On en a une version française. Je sais plus ce que c'est, la robe de ma vie ou un truc
Ouais,
comme
mais c'est
ça.
un peu plus
Un peu
méchant,
chouïne un
non?
peu. Ah ouais,
Ouais,
tu crois?
j'avais vu un épisode, mais elle faisait trop des critiques, les vendeuses.
Les vendeuses critiquaient les.
Ouais, c'était un
Ah
peu
bon.
plus version.
Bon, j'avoue, j'ai jamais trop regardé parce que bon, c'était pas tout à fait le même style. Il y a pour tous les goûts, hein, mais je trouvais que c'était très écrit et très. Tu savais déjà comment ça allait se passer à la fin, quelle
Ouais.
robe elle allait choisir et qu'est-ce qu'elle allait débloquer. Mais c'est vraiment des histoires de famille qu'on essaye de débloquer à travers les essayages de
Ah ouais,
robes, tu vois.
d'accord.
Donc c'est très drama,
Ok.
machin. Mais
Donc,
ok, donc Say Yes to
moi,
the
j'étais à
Dress.
fond sur la robe depuis que je suis née, en fait, il faut bien savoir. Moi, je suis obsédée, vraiment maladif de robe de mariée. Je suis tombée dans la marmite comme tout le monde, Sicile impératrice, peau d'âne, etc.
Bon, alors c'est le moment où je précise à tout le monde qu'il y aura donc un épisode spécifique sur tes robes de mariée au pluriel. Je dis pas combien il y en a, je laisse le suspense. Et donc on fera une capsule, enfin un épisode pour la capsule, l'histoire de robes de mariée tout au pluriel. Donc on aura toutes ces infos-là. Après, on va pas parler de robes pendant cet épisode. Mais juste, donc c'était la première chose que tu avais en tête quand on t'a dit, quand
Voilà,
t'as fait la
exactement.
demande officiellement.
Exactement. C'était la robe d'abord. Et après, en fait, je me disais, une fois que j'ai la robe, je trouverai tout ce qui va autour, le lieu, etc. Parce que nous, on pensait vraiment pas se marier en France. On pensait vraiment se marier en Australie à cette époque-là. Et puis, ça a été énormément de conversations pour se dire, parce que lui, il est très, très proche de sa famille. C'est ce que j'aime chez lui, d'ailleurs. Et eux, ils viennent vraiment de l'outback. Donc, c'est le désert australien. Il y en a de sa famille qui n'ont jamais pris l'avion. Enfin, c'est vraiment un patelin, quoi. Et nous, bah, toute ma famille, elle est très française, mais elle est enfin, plus internationale que lui. Ma sœur, elle est à l'île Maurice. Mes parents sont en Arabie Saoudite. Donc, on est quand même des grands voyageurs. Donc, c'était plus logique que ma famille vienne en Australie plutôt que l'inverse. On s'est dit à un moment, peut-être qu'on fait un truc à Bali, par exemple, parce que c'est entre les deux, et on fait un truc en vraiment plus petit comité. On s'est posé beaucoup, beaucoup de questions. Et puis, de toute façon, c'était en milieu de Covid, puisqu'il m'a fait sa demande en juillet 2020. Donc, bah, il s'est rien passé. Hein. donc, nous, on avait l'idée de faire un elopement parce qu'il y avait le Covid. Moi, je voulais vraiment avoir un bébé. J'étais dans cette période où ça me travaillait beaucoup. Jeff, ben, aussi, il était d'accord de lancer le projet. Et je voulais absolument, parce qu'encore une fois, j'ai une famille assez tradie, je voulais absolument me marier avant de lancer le bébé. Et donc, on savait pas comment allait se passer avec le Covid, si on allait jamais avoir réussi à faire un mariage. Donc, on s'est dit, bon, ben, on va faire un elopement. C'est-à-dire, tu te maries à deux, t'as chacun un témoin, et puis voilà. Et donc, j'ai organisé, un mariage surprise. En fait, j'ai appelé mes parents pour voir s'ils étaient d'accord. Ils m'ont dit, mais à fond, fais-le, c'est
Donc
trop bien.
sans eux, sans les parents.
Sans aucun de ma famille et
OK.
de mes amis, puisqu'ils ne pouvaient pas venir. Et en fait, Jeff, il m'a toujours dit, moi, je ne veux pas me marier, je ne veux pas me marier, je ne veux pas me marier. Par contre, je sais que j'y échapperai pas, mais je veux vraiment pas du stress, je veux vraiment pas de la préparation. Donc, je me suis dit, quel est le meilleur moyen pour qu'il profite du mariage? C'est d'avoir zéro préparation et donc qu'il soit kidnappé pour son mariage. Je me suis dit, mais c'est génial comme concept, parce que du coup, il sait même pas qu'il y a un mariage, il a même pas le temps de stresser, tout est organisé pour lui.
T'es en train de me regarder avec des yeux. Alors attends, on était en je chope le mec qu'il faut avec le gourou, les techniques de psychopathe. Le gars, je le kidnappe, il a pas demandé quoi que ce soit, mais vas-y, tu vas dire oui, c'est maintenant.
Mais moi, dans ma tête, c'était tellement intelligent, donc j'ai contacté sa
Enfin,
maman.
elopement, t'es pas obligé de kidnapper la personne quand même.
Bah,
Tu
pour le coup,
simplifies au
la
max.
surprise, tu vois. Et donc, j'ai contacté sa mère en disant,
C'est fort le
voilà.
kidnapping quand même.
Oui, bon, tu le... Bah si, moi, c'était vraiment un enlèvement que je voulais, tu
Ok.
vois, par ses meilleurs amis. Donc, j'avais tout planifié. Donc, j'ai appelé sa mère pour être sûre qu'elle était d'accord quand même. J'ai dit, voilà, Maureen, voilà mon idée. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée? Est-ce que vous pensez que ça va lui faire plaisir? Et est-ce que vous êtes partante? Elle me dit, mais carrément, Caroline. Alors que j'aurais jamais pensé qu'elle dise oui. Et donc, j'ai organisé ça. Et donc, le projet, c'était ses meilleurs potes le kidnappent pour l'enterrement de vie de garçon le vendredi soir. Il le dépose dans un lieu. Donc, il l'habille, etc., le samedi matin. Il le dépose dans un lieu qu'on adore, qui est sur une falaise, où on fait l'elopement à deux, avec le photographe comme témoin, donc personne d'autre. Et ensuite, on allait dans un dîner avec toute sa famille, ses amis, qui nous. Donc, il y avait deux surprises, quoi. L'enterrement de vie de garçon. Donc, c'était génial. Tout le monde était à fond. J'ai organisé. Donc, il a 10 meilleurs potes. Tous les meilleurs potes étaient à fond. La famille, etc. J'avais trouvé le lieu. Donc le lieu était fait, j'avais heureusement pas fait d'acompte et j'avais le traiteur, donc tout était incroyable, les fleurs, etc. Donc trop contente, même le photographe j'avais. Et puis en fait, l'Australie a fermé encore une fois les frontières et là je me suis dit, comme ses parents sont encore dans un état différent, ça va pas le faire. Et surtout, quand j'ai contacté la célébrante, en fait là-bas ils ont des célébrants, elle m'a dit, donc moi j'étais trop contente de mon idée, elle m'a dit, mais Caroline, c'est illégal de kidnapper quelqu'un pour son mari? Je dis, mais non, mais c'est pas vraiment le kidnappé, il va dire oui, enfin, je l'ai pas drogué non plus. Elle me dit, non, parce que nous, on doit faire des étapes préalables où je dois. Ouais, préparatif, où je suis obligée de le rencontrer, d'être sûre de son consentement. Je dis, mais non, mais vous allez tout gâcher là. Donc, je dis, mais parce qu'elle me dit, on doit signer des papiers. Je dis, mais c'est pas grave, ça, je peux les faire signer, il verra rien, je lui dis que c'est pour un autre truc. Alors, elle a pas aimé, donc du coup, j'ai changé de célébrant et j'ai entendu le même.
Tu avais parlé du gourou avant ou pas? Est-ce que je vous ai raconté l'histoire de la rencontre?
Ouais, donc bon, ça n'a pas du tout plu et on m'a expliqué très clairement, tu n'as pas le droit, légalement en Australie, de surprendre le marié à son mariage, enfin le jour de son mariage. Donc j'ai dit ok. Et du coup, ce qu'on a fait en fait, c'est que je me suis dit, bon bah quand même, vu que j'ai déjà tout le lieu, le machin, un truc. Donc en fait, on a organisé son enterrement de vie de garçon, sans la partie famille et mariage.
Ok.
Et donc, ses potes l'ont kidnappé, pour de vrai. Il savait pas du tout, il a été méga surpris. Et moi, j'étais, tu sais, comme dans NCIS, les trucs de la fille qui est derrière son écran. Alors, il est au coin de la rue, tous venaient. Donc, ils avaient chacun deux vannes. Tous ses potes, les 10, sont sortis, ils l'ont pris. Et en fait, ils ont eu un week-end entier avec le traiteur du mariage qui leur a fait un truc que pour les 10, paintball, etc. Et il a eu un enterrement de vie de garçon incroyable.
Ok, donc cette version-là du mariage, c'était carrément toi qui as préparé absolument tout, lui s'en doutait pas. Est-ce que pour la suite, il s'est impliqué dans le mariage ou est-ce que tout du long, c'est toi vraiment qui as géré de A à Z?
Ouais, non, c'était vraiment le deal, c'est on se marie mais je veux jamais en entendre parler.
D'accord.
Il en a entendu parler tellement qu'il en pouvait plus, ça lui sortait par les oreilles, mais il y avait des choses, j'étais obligée de lui demander son avis,
ça,
quoi.
Ouais.
Et lui m'a toujours dit, je veux pas en entendre parler, prends des décisions, t'es assez grande et tout. Et j'étais, ah mais non, mais j'ai besoin de toi. Et ça a été vraiment difficile pour moi de tout organiser toute seule. Mais bon, lui, les deux conditions qu'il avait pour accepter de se marier, notamment accepter de se marier en France dans la propriété familiale, c'était que l'herbe soit verte. Parce qu'en Australie, en fait, et surtout dans le patelin où il vient, où c'est très désertique, tu vois la richesse des gens, ou en tout cas l'échelle sociale des gens, en fonction de la couleur de leur gazon et de l'entretien de leur gazon. J'ai mis du temps à comprendre ça. Pourquoi ils voulaient ? Parce qu'en France, c'est pas un truc qu'on fait pas forcément gaffe, quoi. Et quand il a vu la tête de la pelouse du château, il a dit non, mais c'est pas possible, en fait. Donc ça, c'était la première condition.
Parce que sèche ?
Parce que sèche, parce qu'elle a jamais été replantée en 50 ans, parce que tu vois, nous on s'en fiche, c'est vraiment pas un truc. On a un très beau parc avec beaucoup d'arbres, des trucs vraiment jolis, on a plein de haies, etc. Mais on n'a jamais fait gaffe au gazon. Donc lui, pour lui, c'était vraiment, il me faut un beau gazon. Et la deuxième condition qu'il avait, c'est que tu fais ce que tu veux. Tu te changes autant de fois que tu veux, tu fais toutes les extravagances que tu veux, je te donne le budget que tu veux. Mais par contre, je veux pas que mes invités attendent. Il n'y a pas de moment où ils attendent parce que toi, tu fais ta princesse.
Mm-hmm.
Voilà.
Fair enough.
Fair enough, franchement, fair enough. Et du coup, j'avais le budget, donc moi, ça m'allait, quoi.
Et alors, à quel moment vous êtes partie sur cette version en France et dans le domaine de ton côté de la famille?
Après avoir eu notre fils, James, donc on a quand même eu un bébé avec tout ça, parce que Covid continuait, on avait envie d'avancer dans nos projets. Et puis après le bébé, c'est ma maman qui nous a dit, écoute, pourquoi tu ne te maries pas l'année prochaine? Le monde est en train de réouvrir, nous, ça nous ferait plaisir de te voir, etc.
Donc c'est elle qui propose que ce soit chez vous?
C'est elle qui propose qu'on se marie l'année d'après. Et donc
d'accord.
Là, avec Jeff...
Mais pas forcément avec...
Ouais, non, elle,
en tête,
c'était vraiment pas le lieu en tête. C'était vraiment, allez, faut se
d'accord.
marier, vous avez un enfant. En plus, elle, son idée, c'était de dire, James, mon bébé, il est australien. Ton mec est australien, vous habitez en Australie. En vrai, t'as aucun droit sur ton bébé, entre guillemets, si toi... Parce que j'étais encore je suis pas australienne, donc j'ai un visa très temporaire. Si jamais, toi, il t'arrive un truc où ça ne marche plus avec Jeff, quel droit tu as sur ton bébé? Et le fait d'être mariée, quand même, ça légalement, c'est important. Donc elle m'a dit, écoute, là t'as plus d'excuses, et puis je pense qu'elle savait que j'avais besoin d'un projet après la naissance, tu vois, donc c'était parfait. Et là on s'est vraiment dit, ok, le timing est là, on a réfléchi pendant des jours, des heures, des semaines, et puis on s'est dit, moi j'aimerais vraiment que ma grand-mère soit là. Elle, elle pouvait pas se déplacer. On a quand même beaucoup de gens en Australie qui nous ont dit, mais faites-le en France, on n'a qu'une envie, on n'a pas bougé pendant 2-3 ans.
Ah.
Faites-le en France, on viendra, quoi. Et donc, on s'est dit, allez, on le fait en France. Et puis, pour moi, tu vois, mes grands-parents, mes parents, tous mes oncles et tantes, mes frères et sœurs, tout le monde s'est marié dans cet endroit. Donc, ça fait... Depuis toujours, j'en rêve. Et je pense que d'être maman, tu te rends compte un peu des traditions que tu as envie aussi de laisser à tes enfants. Donc, je me suis dit, c'est parti. Et lui, il a compris et il m'a dit, bah, allez, on y va.
Donc, le lieu, finalement, assez simple. Et dans toute cette organisation, alors en France... Toi, tu t'es organisée à distance, forcément, à l'autre bout du monde, avec décalage horaire.
Ouais, heureusement, le décalage horaire, parce qu'en fait, quand t'as un bébé... Donc moi, j'ai commencé à organiser le mariage. James avait un mois, du coup, donc quand t'as un tout petit bébé. C'est compliqué. Et en fait, avec le décalage horaire, enfin, il allait se coucher vers 8h. Et 8h, ça correspondait à la fin de matinée en France. Donc c'était parfait pour vraiment appeler les traiteurs, etc. Alors que les jeunes mamans en France, ben... C'est à 8h du soir, tu peux plus appeler personne. Mmh. Donc moi, j'ai eu vraiment de la chance là-dessus. Et en même temps, de la malchance parce que ben, quand t'es loin, c'est quand même compliqué. Et surtout, on n'avait aucune famille autour de nous pour nous aider à garder James pendant que je préparais tout ça. Donc c'était assez lourd quand même.
Mais est-ce que sur place, t'avais de l'aide ou sur qui t'as pu compter là, pour t'aider dans l'organisation?
Non. Bah en fait... Donc James avait 2 mois et puis la première chose que j'ai fait c'est donc de contacter la mairie et l'église pour être sûre d'avoir trouvé une date en fait, parce que moi comme j'ai de la famille un peu à l'étranger aussi, il fallait être sûr que mon père notamment était en France, et donc on l'a fait le week-end après le salon du Bourget puisque mon père est pilote de chasse, enfin il bosse beaucoup dans les avions, donc je savais qu'il serait en France à cette époque-là, et donc on avait dit le samedi du 1er juillet. Donc ça correspondait, j'ai un peu dit à tout le monde était un peu, c'était bon pour tout le monde.
Donc là ça te laissait combien de temps pour organiser tout ça?
Ça me laissait exactement, James est né en mai, donc ça me laissait 1 an et 1 mois.
Ok, voilà. Correct.
Correct, parfait, on était dans les temps, impeccable. Et donc tout le monde avait validé sa date, donc j'ai appelé la mairie du Médoc, là où on est, pour être sûr que c'était bon. Et puis ensuite j'ai appelé l'église, puisque c'est la même église dans laquelle mes parents sont mariés, enfin c'est l'église familiale. Donc tout était bon, et ensuite c'était le traiteur, le gros point de... Donc maman, en fait pour le mariage de ma sœur, ils avaient fait appel à un traiteur incroyable, vraiment incroyable, qui a depuis pris sa retraite. Donc c'est le premier que j'ai appelé, ils m'ont dit, bah, on a pris une autre tête.
Attends, ta sœur s'est mariée dans le même,
ouais,
le même lieu?
Ouais, ouais, château. Mais 7 ans auparavant.
Okay.
Et donc là, je les ai appelés, ils m'ont dit, bah écoutez, ça fait 2 ans qu'on a pris la
Covid
retraite.
Et tout aussi, en plus.
Exactement, donc là, j'étais vraiment trop triste. Et mon frère venait de se marier, il s'est marié pendant Covid, il a reporté son mariage d'1 an. J'étais enceinte, en fait, j'ai pas pu y aller parce que j'aurais pu aller en France. Encore une fois, je suis ressortie sans français, j'aurais pu y aller, mais j'aurais pas pu revenir en Australie, puisque j'avais pas le bon visa pour revenir. Ouais. Et Jeff n'aurait pas pu sortir du territoire, donc ça voulait dire qu'on s'était séparés pour, encore une fois, on savait pas combien de temps. Donc ça a été vraiment, vraiment difficile pour moi de pas assister au mariage de mon frère. Mais donc maman voulait prendre un autre traiteur et elle avait un peu fait parler la dame de la paroisse pour savoir, etc. Elle m'avait donné 3 noms et donc j'avais pris des devis et j'avais enfin un menu à le présenter. Donc il fallait absolument, parce qu'on était quand même qu'à 1 an du mariage, et les traiteurs m'ont dit c'est maintenant quoi, on n'a plus beaucoup de spots, faut réserver. Donc j'envoie le menu à maman. Et d'habitude, elle est à fond, elle me répond tout de suite. Et là, j'ai pas de nouvelles pendant toute la journée. Et le soir à 11h... je reçois je vois que ma mère m'appelle, et ma mère m'appelle jamais tard le soir parce qu'elle connaît très bien le décalage horaire et elle sait très bien que voilà, j'ai un petit bébé, donc elle m'appelle jamais cette heure-là. Et en fait, quand j'ai vu mon téléphone sonner, j'ai su qu'il y avait un problème, et donc j'ai décroché et j'ai dit oh, c'est papa, et elle m'a dit non, il y a un gros silence et elle me dit c'est moi. Elle me dit, c'est moi. Je me dis, ah, ouf, bon, bah ça va si t'es au téléphone. Et en fait, elle me dit, Caroline, je sais pas comment te le dire, donc je vais te le dire d'un coup. Mais en fait, je t'appelle pour te dire au revoir, parce que ils m'ont trouvé une énorme tumeur et que j'en ai plus pour longtemps. Et il y a un risque que tu arrives pas à rentrer à temps, quoi. Et donc, moi, j'ai pas vu ma mère depuis 2 ans et demi à ce stade-là, parce qu'il y avait le Covid. J'ai un petit bébé, tout petit, quoi. Et en plus, ma maman devait arriver en septembre pour m'aider à préparer le mariage, pour venir rencontrer James. Et quand elle m'annonce ça au téléphone, en fait, je comprenais pas. Donc elle me dit, bah voilà. Enfin, en fait, je savais qu'il y avait depuis un petit moment, elle avait du mal à, tu sais, elle était hyper haletante quand elle montait les escaliers. Donc elle est juste allée voir notre généraliste normal, quoi, qui lui a dit, bon, on fait une radio du poumon au cas où, pour vous rassurer. Et là, en fait, quand elle a fait sa radio du poumon à Bordeaux, la nana, la radiologue, lui a dit, en plus, c'est des gens qui rencontrent jamais les patients, tu vois. Donc elle a pas mis les formes ni rien du tout, parce que normalement, les docteurs sont pas censés te dire, te donner un laps de temps, tu vois. Ils sont censés te dire, bon, c'est grave, mais voilà. Et elle est pas du tout habilitée normalement à parler aux patients, mais elle a fait venir ma mère dans l'arrière-salle et elle a dit, écoutez, je sais pas comment vous le dire, mais en fait, vous avez une énorme tumeur sur l'artère pulmonaire. Et donc, il y a plus qu'un tout petit trou par lequel le sang passe pour alimenter le cœur. Et vous en avez plus que pour quelques jours, avec un peu de chance, quelques semaines, parce que ça va se boucher, vous allez mourir asphyxié, quoi. Et en fait, on n'avait aucune idée, vraiment. Et en plus, ma maman avait fait des radios 4 mois après, mais parce que pour l'assurance, il fallait faire des radios. Donc, on a vu que le cancer qu'elle avait progressé. Enfin, ça n'existait pas 4 mois avant. Donc, c'est un truc qui allait vraiment vite. Donc, elle m'a appelée pour me raconter ça et pour me dire, bah voilà, je sais pas si tu auras le temps de revenir pour me dire au revoir. Donc, je te dis au revoir. Et donc, ça a été, ok, bah, on va pas parler menu de traiteur, alors. Et moi, quand elle me racontait ça, j'avais qu'une envie, c'était raccrocher. Faut que je prenne mon billet d'avion. On arrête de parler, là, j'arrive, quoi. T'inquiète, j'arrive. Et donc, je raccroche et là, Jeff vient me voir et me dit, j'ai une mauvaise nouvelle. Je dis, écoute, mon gars, tu peux aller te... Voilà, tu peux retourner d'où tu viens, tes mauvaises nouvelles, je m'en fous, parce que on part, là, on part en France, et voilà ce qui se passe, on part en France. Il me dit, non, j'ai une mauvaise nouvelle, parce que j'ai de la fièvre, et voilà le message que j'ai reçu de la gym. Et en gros... tous ses potes avaient le Covid à la gym et lui fait du jiu-jitsu, donc c'est des sports de combat de proximité. Et il me dit, je lui dis, bon, bah écoute, je pars sans toi, tu vois. Et il me dit, non, mais James a 42 fièvres aussi. Et là, je dis, merde, si mon nouveau-né a le Covid.
Tu l'as.
Bah, je l'ai. Mm-hmm. Et puis surtout, on voyage pas en fait, parce qu'il te scanne, tu sais, t'avais encore besoin des tests. Et donc, on se fait tester et on a le Covid. Et là, ben, on peut pas partir, quoi. Et en fait, ce mercredi-là, on était toutes les trois femmes de la famille à l'hôpital. Moi, j'étais à l'hôpital avec James, qui avait 42 fièvres depuis 3 jours. Il respirait plus très bien, etc. Ma sœur était en train d'accoucher de son deuxième. Et ma maman était en train de prendre une ponction pour voir la gravité de son cancer, ce qu'elle avait. Et évidemment, c'est tombé que c'était un sarcome, un des plus rares et des plus fulgurants qui arrivent. Donc bon, c'était pas... Tu sais, quand il dit ça arrive par vague, c'est vraiment ça, quoi. Et en fait, du coup, on a été coincés en Australie pendant 3 semaines. Donc 3 semaines où... Il fallait attendre que le Covid se finisse et on pouvait pas bouger. Et moi, pendant ce temps-là, je voyais ma maman qui me mettait en place. Ils m'ont dit, bah, mettez en ordre, enfin, vos affaires en ordre. Donc, elle faisait ses testaments, bah, elle disait au revoir aux gens, elle écrivait des lettres. Enfin, c'était hyper, hyper violent, quoi. Donc, et puis moi, pendant ce temps-là, je recevais tous les devis traiteurs, je recevais des mails, félicitations, vous allez vous marier, enfin, et j'étais là, mais non, c'est plus d'actualité, là, les gars. Et on a réussi, en fait, elle a eu beaucoup de chance, ma maman, parce que c'était inopérable, son cancer, et en plus, ils ont vu que ça s'était métastasé dans tout le poumon droit, et en fait, elle est tombée sur un grand spécialiste à Cochin qui a dit, écoutez, moi, je suis en fin de carrière, j'ai plus rien à prouver, donc j'ai envie de tester, de greffer, d'enlever ça, de greffer, on l'a jamais fait, donc ça vaut le coup de tester. Il y a 50%, enfin je sais pas combien de pourcents de chances que ça marche pas et que vous mourriez demain sur la table d'opération, mais si on fait rien, la semaine prochaine vous êtes plus là, quoi. Donc elle a pris ses chances et nous on a eu beaucoup de chance d'arriver quelques jours avant l'opération, donc on a pu tous lui dire au revoir. Ma sœur, ça a été difficile aussi pour elle parce que son fils venait de naître 2 semaines avant, et normalement t'as pas le droit de prendre l'avion, mais surtout il avait pas son passeport, donc elle a pas pu l'emmener, donc elle est venue juste pour 24 heures pour dire au revoir à ma mère. Et donc ma mère nous a pris un peu à part chacun, et moi elle m'a dit, écoute Caroline, je veux que tu me promettes que tu te marieras, que je sois là ou pas, parce que ça me tient vraiment à cœur. Et elle me dit, voilà, c'est la dernière chose que je te demande, c'est que tu te maries. Et là, je l'ai regardée, je lui ai dit non. Elle me dit, quoi? Mais je suis en train de te dire, c'est mes dernières volontés, qu'est-ce que tu me dis? Non, je lui ai dit, non, je me marierai pas, c'est impossible pour moi de me marier sans ma mère, c'est impossible. Alors, je voyais que c'était pas du tout tu sais à quoi elle s'attendait. Et je lui ai dit non. Et donc, elle est partie se faire opérer. Ça a été une opération très, très compliquée. Ça a duré... elle a été dans le coma pendant 1 mois. Ils lui ont greffé donc cette partie de l'artère pulmonaire. Ils lui ont enlevé un poumon. D'ailleurs, elle fumait pas. Sinon, ils l'auraient pas fait parce qu'elle avait des poumons en bonne santé. Elle avait moins de 60 ans. Donc, elle a eu beaucoup de chance. Et en fait, quand elle s'est réveillée, elle se souvenait plus de nous.
Donc ça a été un peu difficile aussi. Et moi, j'allais la voir tous les jours. Et puis un jour, j'étais à côté d'elle. Et là, j'entends... Enfin, tu sais, j'étais en train de scroller sur mon phone. Enfin, voilà. Et j'entends... Bon, alors, t'en es où dans la préparation du mariage? Et là, je me souviens, c'était vraiment... Mais genre, j'ai bugué. Je me retourne. Et ma mère venait de se faire désentuber une semaine avant. Donc, elle parlait pas très bien et tout. Donc, elle me dit, bah... Ah, t'as fondu et tout. Enfin, je comprenais pas. Et là, j'ai compris que c'était maman, c'était son regard, c'était. Et donc, j'ai hurlé aux infirmiers. Elle s'est réveillée, elle s'est réveillée. Alors qu'en fait, elle s'était réveillée avant, mais elle se souvenait quoi. Et le fait que ça soit la première chose qu'elle ait dit, c'était mon mariage. C'est comme si le fait que je lui ai dit, enfin, moi, je l'ai pris comme ça, mais le fait que je lui ai dit, ben, je me marierai pas si t'es pas là, elle s'est dit, bon, bah, faut que je me batte pour qu'elle se marie, quoi. Et là, elle m'a dit, écoute, j'ai vraiment mal partout, je pense pas que je vais m'en sortir, mais promets-moi que tu te marieras. Je lui ai dit, mais maman, pas encore avec ça. Non, je me marierai pas sans toi. Et voilà, ça a pris du temps, mais elle s'en est assez remise, enfin. Elle a été en alité, etc. pendant très longtemps. Mais ce qui a été génial, c'est que du coup, j'ai pu recommencer la préparation du mariage. Et donc, on est rentré en Australie fin novembre, début décembre. Et c'est là où j'ai recommencé, enfin, j'ai vraiment commencé la préparation du mariage. Donc, 6 mois avant le mariage. Donc, en fait, quand j'arrive début décembre et que je remets la machine en route, moi, j'ai plus que 2 semaines avant que ce soit Noël. Et qu'après, c'est le. Enfin, il n'y a plus personne, en fait, pendant les 2 semaines, Noël et premier an. Donc, voilà, j'avais 2 semaines pour mettre au moins en place le traiteur. Parce que c'était le plus impératif.
Entre-temps, tu les as tenus un peu informés non. ou pas du
bah
tout
non, moi, j'étais entre la vie et la mort. C'était pour moi, c'était maman, maman, maman. Mmh. Et vraiment, on s'est battu pour qu'elle s'en vit. Et vraiment. C'était même plus dans mes projets, quoi. Ce qui a été aussi, on a fait tout de suite le save the date pour dire aux gens, parce qu'il y avait des gens, encore une fois, qui venaient de l'étranger, pays comme, tu vois, l'Australie, tu prends pas tes billets 3 minutes à l'avance. Donc, tout de suite, on a dit aux gens, bon, on a la date, ce sera le week-end du 1er juillet, vous, on est sûr, bookez ça. Et puis après, donc, c'était le traiteur. Et là, j'ai appelé tous les traiteurs de Bordeaux, sans mentir, j'en ai appris une quarantaine. Ils étaient tous pris, tous pris. Et en fait, c'est ma maman qui m'a dit, parce que du coup, c'était génial pour elle d'avoir cette préparation du mariage, parce que comme elle était à l'hôpital, elle pouvait rien faire. On passait des heures à se raconter mes projets, ce que j'allais faire, etc. pour le mariage. Ça la sortait un peu de son quotidien. Et elle me dit, mais pourquoi tu fais pas ton mariage un vendredi? Parce que du coup, les tresseurs, ils sont encore dispo. Mmh. En plus, comme c'est le vendredi, vu que eux, vaut mieux pas passer après d'autres mariages. Parce qu'ils sont fatigués, tu vois. Là, tu passes avant d'autres mariages.
Ah, tu veux dire pas un mardi, par exemple.
Ouais, lundi, ou un lundi, mardi, tu vois. Ouais. Voilà, donc... ou même si tu le fais un jeudi, comme t'as des mariages le mercredi, tu vois, tu passes juste après. Ouais.
Okay,
donc là, tu passes avant, parce qu'ils peuvent faire un mariage le vendredi, un mariage le samedi, mais t'es avant, donc tu les as frais. Ouais, voilà. Et elle me dit, bah, fais-le le vendredi. En plus, comme nous, on avait beaucoup de gens qui venaient de l'international, ils auraient pris des vacances, donc ça changeait rien. Et comme c'était le dernier week-end de juin, franchement, les Français, tu peux poser un vendredi en fin juin, quoi. Il y en a qui m'ont expliqué que non, mais bon, écoute, tant pis pour eux, quoi. Donc, on a décidé de le faire vendredi. Et là, incroyable, les portes d'Alibaba s'ouvrent sur Bordeaux. Tous les traiteurs sont à nouveau disponibles. Donc là, je me suis rendu compte, en fait, j'ai plein de choix et j'ai le temps, le fait de le faire le vendredi. Donc ça m'a trop, trop aidée. Et donc, j'ai pu prendre le temps de trouver un vraiment bon traiteur. Et donc on met tout ça en route. Et en fait, on avait prévu avec Jeff d'arriver en avril en France pour un mariage, donc fin juin, pour pouvoir préparer le château, parce que c'est un château qu'il fallait quand même tout renettoyer, tout mettre en place, etc. Ne serait-ce que les jardins. Et donc, nous, on avait prévu de partir le 15 avril, et en fait, vers la fin mars, ma maman, qui allait beaucoup mieux, qui avait repris sa vie normale, fait un check, comme toutes les six semaines, elle devait faire des checks. Et là, en fait, ils lui disent, écoutez, madame, vous devez aller aux urgences tout de suite, parce que le cancer est reparti, c'est de l'autre côté. Et là, il lui restait plus qu'un côté puisqu'ils avaient enlevé un poumon. Moi, je me dis, c'est pas grave parce que j'arrive dans 15 jours. Et en fait, j'ai mon oncle et ma tante qui m'ont appelé en me disant, Caroline, ça s'est dégradé très, très vite. Viens. Et là, je me suis dit, mais comment ça? Enfin, j'arrive dans 15 jours. Qu'est-ce que tu me dis? Ça se dégrade vite. Enfin, c'est pas possible. Ils me disent, non, viens, tu regretteras jamais de venir. Et en fait, son état en 3 jours, elle allait super bien, tu vois. Et elle a beaucoup de chance dans le sens où c'est un cancer qui lui fait pas mal. Donc, elle s'en était pas rendue compte que c'était reparti. Et donc, elle est allée à Cochin. Et là, elle a eu le prêtre qui est venu la voir pour lui faire l'aumône. Du coup, tu sais, ils ont un aumônier sur place. Et il lui a demandé, bah, écoutez, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Enfin, tu vois, comme tous les patients. Mais ma mère, je pense que tous les malades, ils doivent dire, bah, priez pour moi, mon père, tu vois. Ma mère, pas du tout. Mais écoutez, j'ai bien une demande. Il lui a dit, bah voilà, mon dernier, enfin, un peu ce que j'aimerais, c'est que tous mes petits-enfants soient baptisés. J'en ai quatre. Il n'y en a pas un qui est baptisé. Moi, c'est très important pour moi. Et je voudrais le faire bah, ce week-end parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Donc nous, on est arrivés le samedi. Le baptême serait le dimanche. Nous, on a changé de vol pour aller le plus vite possible en France et arriver avant que ben, on savait pas ce qui allait se passer. Et donc l'aumônier a vraiment, je sais pas comment il a réussi ce miracle, mais il a réussi à faire baptiser les enfants ce jour-là. Et ça a été un moment extraordinaire. Et on a rencontré donc le prêtre de l'hôpital de Cochin, qui a été vraiment fabuleux avec maman, qui l'a vraiment aidé dans cette étape. Parce que être confronté à sa propre mort une deuxième fois, c'est quand même vraiment violent. Et à 2 mois de mon mariage, quoi. Et je me souviens, je suis allée voir les docteurs de Cochin, parce qu'elle venait de commencer la chimie, en fait. La carte qu'on n'avait pas jouée, puisqu'elle a eu l'opération la première fois, on avait encore une carte à jouer, c'était la chimio. Donc, ils l'ont mis sur une dose de cheval en disant, on a encore cette carte-là. Et donc, je suis allée voir les docteurs, parce qu'elle était vraiment pas bien. Et je lui ai dit, écoutez, bon, bah, mon mariage, c'est dans 2 mois, comment on s'organise, quoi, pour qu'elle se fasse et tout. Et là, ils m'ont dit, écoutez, asseyez-vous, mais je crois que vous avez pas compris. En fait, 2 mois, c'est long pour votre maman. Je dis, oui, mais comment on s'organise pour qu'elle vienne à mon mariage?
Dis, non. Je crois que c'est vous qui n'avez pas compris.
Ouais. Je dis, non, mais c'est très, très long pour votre maman. Et en fait, là, j'ai compris ce qu'ils essayaient de me dire. Mais tu sais, c'est des médecins, ils n'ont pas le droit de te donner vraiment de chiffres. Mmh. Et je me souviens, j'ai regardé ce gars qui était absolument adorable, vraiment très humain. Et je lui ai dit, mais c'est dans 8 semaines. 8 semaines, c'est rien, 8 semaines. Et il me dit, mais c'est long, 8 semaines. Je lui ai dit, mais c'est pas long, 8 semaines. Moi, j'ai tellement de choses à préparer, c'est pas long. Et là, voilà, j'ai compris que c'était chaud. En fait, les docteurs pensaient vraiment pas qu'elle y arriverait parce que, bah voilà, c'était une chimio quand même très, très violente. Et en fait, ils ont donc tout. Moi, j'avais mis mes faire-part dans sa chambre d'hôpital partout pour lui donner de la force et tout. Et j'avais dit à toutes les infirmières, je parlais de mes robes, je parlais de machin. Ils l'ont quand même laissé sortir une après-midi pour qu'elle vienne voir mes robes.
Trop cool.
Ouais, ouais, c'était vraiment un beau moment parce que j'avais très peur bah, qu'elle soit pas là. Et en fait. Et j'ai parlé à une copine qui venait de perdre sa maman et qui m'a dit, écoute, si c'est vraiment important pour toi qu'elle soit à ton mariage, il faut que tu te maries à la mairie maintenant avec ta maman, quitte à ce que tu fasses, parce que nous, on avait décidé de faire la mairie la veille de l'église, quitte à ce que, voilà, elle soit pas là pour l'église, mais au moins, elle sera là. Parce qu'en fait, il y avait 3 problèmes. C'était, est-ce qu'elle sera en suffisamment bonne santé? Peut-être qu'elle sera en vie, mais elle pourra pas se déplacer de Paris puisqu'elle était à l'hôpital. L'autre option, c'est qu'elle soit plus là du tout, c'est-à-dire qu'elle soit décédée. Et la troisième, c'était quoi? Bah,
qu'elle soit là et en pleine forme.
Voilà. C'est une très bonne option. Donc, on savait vraiment pas, il fallait se préparer à tout. Et donc, moi, ce que j'ai fait là, à ce moment-là, c'est que j'ai appelé, enfin, j'ai regardé en ligne toutes les mairies de Paris pour voir laquelle me donnait un rendez-vous le plus rapidement. Parce qu'en fait, c'est pas si facile de se marier du jour au lendemain à Paris. Faut avoir un premier rendez-vous avec la mairie pour prendre les dossiers. Ils te le donnent pas en ligne. Et ensuite, t'as souvent... en fait, c'est pas tout de suite que t'as un rendez-vous.
Surtout mariage avec un étranger, j'imagine que c'est encore autre chose.
C'est encore autre chose. Donc, j'ai pris plein de rendez-vous dans tous les arrondissements pour avoir un pré-rendez-vous. Et tout de suite, j'ai pas attendu, j'ai pris le rendez-vous pour, tu sais, donner le dossier. En me disant, bon, entre 3 jours, entre les 2, je peux y arriver. Et en me disant, je trouverai toujours quelqu'un qui me validera que j'habite chez eux pour pouvoir aller à cette mairie-là. Enfin, ils comprendront, tu vois. Et en fait, quand j'ai raconté à maman que je faisais tout ça, elle m'a dit, mais très gentiment, tu vois, elle m'a dit, écoute, je sais pas comment te le dire, mais en fait, j'ai pas la force. J'ai pas la force. Et là, je me suis rendu compte, mais t'es tellement égoïste, tu vois. Toi, tu parles que de ton mariage. T'es à fond sur ce que toi, t'as besoin, mais qu'est-ce que ta mère, elle a besoin, tu vois. Et en fait, elle avait besoin de se reposer, quoi. Et donc ça, c'est là, je me suis rendu compte, ouais, c'est cool, tu vois, de tellement l'inclure dans mes idées, dans mes trucs et tout, mais aussi, elle a besoin de... Bah ouais, elle est en train de vivre un moment vraiment difficile pour elle. Et il y a des moments où elle nous disait, je vais être toute seule, en fait, parce que bah moi, je dois faire mon travail préparatif de... Je me meurs, quoi. Enfin, qu'est-ce que je dois encore faire pour préparer ma mort? Donc, c'était assez, assez bizarre. Et à un moment, d'ailleurs, elle faisait les listes, parce que c'est elle qui connaît... Elle a organisé tous les mariages dans notre propriété familiale. Donc, elle faisait toutes mes listes de ce qu'il faut que je pense. N'oublie pas de mettre des cendriers, n'oublie pas tout ça. Et à un moment, elle me dit, d'ailleurs, pour l'église, n'oublie pas les baillots pour les fleurs, tu sais, les petits paniers. Et puis, j'aimerais bien que tu fleurisses ma tombe, donc mets-le dans la liste. Et là, et puis on parlait tellement d'autres trucs, et là, je dis quoi? Elle me dit, écoute, ouais, je sais que ça va te demander du boulot, mais si je meurs un peu avant le mariage, j'aimerais quand même qu'il y ait une pierre tombale à mon nom et que tu puisses la fleurir. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Elle me dit, bah, écoute, il faut qu'on en parle. Donc voilà. Et donc, je l'ai marqué. Elle me dit, marque-le dans la liste, marque-le dans la liste. Et donc, je l'ai marqué dans la liste. Et je l'ai encore là dans la liste, fleurir la pierre tombale de maman. Ouais. Et donc, spoiler, ma mère m'avait dit, écoute, j'ai fait un pacte avec Dieu grâce à l'aumônier. Je ne mourrai pas entre le 15 juin et le 1er juillet. Je ne mourrai pas les 2 semaines avant ton mariage et pour ton mariage, je te le promets. Et donc, quand on est passé le 15 juin, je savais qu'elle serait en vie. Et je savais qu'elle y arriverait. Et alors surtout, ce qui a été incroyable de la part de l'équipe de Cochin, c'est qu'ils ont décalé des chimios pour être sûr qu'en fait... Parce que quand tu fais une chimio, t'as les 3 premiers jours où t'es vraiment mal. Et après, pendant une semaine, t'es vraiment mal. Enfin, tu vomis partout, etc. Mmh. Et après, il faut que tes globules blancs remontent. Et donc, c'est juste les 3 derniers jours avant la prochaine chimio où t'es bien. Mmh. Et ils ont décalé pour qu'elle soit vraiment au mieux de sa forme le jour de mon mariage. Et vraiment, elle est arrivée 5 jours avant, une semaine avant mon mariage. Et elle a été... personne ne pouvait penser qu'elle était malade. Elle a été incroyable. Et donc, elle est arrivée donc pour m'aider pour les préparatifs. C'était vraiment important pour elle qu'elle soit là. Elle a fait le voyage Paris-Bordeaux en voiture puisqu'elle n'avait pas beaucoup de globules blancs. Elle a dit quand même qu'elle y allait. Et surtout, son gros truc, c'était elle voulait dire bonjour à personne. Enfin, ne toucher personne de tout le mariage parce qu'elle est hyper immunodéficiente. Elle est en pleine chimio. Elle avait... Ah, j'ai oublié de parler de ça, mais pareil, l'hôpital de Cochin a fait venir son perruquier pour qu'elle essaye des perruques parce qu'elle ne voulait pas arriver chauve au mariage. Donc, elle a pu choisir sa perruque.
Son chapeau,
je l'avais apporté d'Australie, mais sa tenue, en fait, elle avait perdu tellement de poids. La tenue qu'elle avait pensé mettre un an avant, c'était impossible. Donc, c'est sa sœur qui lui a apporté sa tenue de fiançailles à elle, il y a, tu vois, 30 ans. Donc, elle avait une taille un peu plus menue à l'époque. Et donc, elle a mis la tenue de fiançailles de sa sœur, très jolie, en soie bleue. Et
comment ça s'est passé le jour J, elle?
Et le jour J, incroyable. Vraiment, je lui avais même demandé de faire un discours. Et elle m'avait dit, Caroline, j'ai plus de voix, j'ai qu'un poumon, je pourrais pas parler. Je lui ai dit, mais maman, il y aura un micro. Et elle me dit, non, je peux pas faire du discours. En plus, c'est pas du tout dans la tradition. Normalement, c'est que les papas. Et j'ai dit, non, c'est vraiment temps pour moi que tu fasses un discours. Et je voudrais que tu fasses un discours sur le fromage. Elle dit, quoi? Je dis, mais oui, parce que moi, à chaque fois que je vais en Australie, comme je suis française, tous mes potes, quand ils sortent un plateau de fromage, ils me demandent comment on coupe le fromage. Et ma maman, c'est la pro des bonnes manières à la française. Donc, j'ai dit, j'aimerais que tu apprennes aux Australiens comment couper un plateau de fromage. Alors, elle a rigolé. Et donc, le jour du mariage, elle a fait le discours sur comment couper le fromage. Et c'est un des discours les plus drôles. Tout le monde était mais... mort, enfin sous la table, tellement c'était drôle. En plus, elle l'a fait vraiment sérieusement, donc c'était tellement bien. Et elle a même dansé un rock avec mon père, et je pense que pour tout le monde, c'était un gros moment de... Elle a réussi, au point, elle allait tellement bien, au point qu'on s'est tous dit, tu sais, souvent, enfin, ça arrive avant de mourir que les gens aillent beaucoup mieux, et puis après, ils chutent d'un coup, et moi, j'ai eu vraiment peur de ça. Mais ce n'est pas arrivé parce que c'est une battante et qu'elle a beaucoup de chance dans la vie et que la chimio a permis de ralentir le cancer. Alors elle est en phase terminale, mais elle est encore en vie et on a ces beaux souvenirs à partager. Et pour celles qui vivent... alors déjà, pour ceux qui ont perdu leurs parents le jour de leur mariage, franchement, je pense à vous énormément parce que ça doit être tellement difficile. Et ça, mon cœur saigne pour ceux qui ont perdu leurs parents. Je sais pas comment tu peux vivre un moment comme ça. Et pour les autres, en fait, le conseil que j'aimerais donner, attendez pas avant de vous marier. Parce que oui, t'auras un meilleur budget si t'attends 5 ans. Mais en fait, ça va tellement vite de perdre des gens que t'aimes. Et il vaut mieux avoir un pique-nique avec des assiettes en carton et les gens que t'aimes que un gros mariage où t'as plus personne, quoi. Et voilà, donc mariez-vous vite. Voilà, comme le docteur a dit, 2 mois, c'est long pour certaines personnes. Donc faites-le. Et celles qui ont des personnes malades aussi, je pense que ça a vraiment... Maman, même si elle pouvait pas m'aider à préparer le mariage, ça a été très difficile pour elle de pas être aussi
Impliqué.
impliquée que d'habitude. Elle a vraiment eu besoin, enfin, et eu envie et adoré que je la tienne dans toutes mes confidences, justement. Je l'ai appelée pendant des heures. Enfin, vraiment, ça a été formidable pour moi, mais ça a été formidable pour elle. Et je pense que si on n'avait pas eu ce projet... je sais pas si elle serait partie avant, mais je sais que ça l'a vraiment fait tenir. Et donc, impliquer les gens, parce que même si à un moment, quand elle a vraiment failli mourir, là, 2 mois avant, elle m'a dit, Caroline, cette fois-ci, promets-moi que tu te marieras. Et je lui dis, oui, là, tout le monde a pris ses billets, enfin, je peux plus annuler. Et je savais que même si elle partait, elle serait avec moi, parce que je l'ai tellement impliquée qu'elle aurait été là. Donc, voilà.
Promis, je vais essayer de faire plus court que l'intro, mais juste un message pour vous remercier d'être toujours plus nombreuses à écouter et partager le podcast. On va bientôt atteindre les 300 000 écoutes, c'est complètement fou, mais surtout j'ai toujours autant de plaisir à lire vos retours directs suite à la sortie d'un épisode, alors continuez, réagissez, dites-moi sur Insta ou par mail ce que vous avez pensé de ce récit, laissez un commentaire sur Apple Podcast, envoyez-moi vos histoires si vous pensez qu'elles compléteraient bien les témoignages déjà publiés, et dites-moi ce que vous voulez entendre pour la suite. Allez, passez une bonne semaine et on se retrouve mercredi avec Caroline pour de nouvelles confidences.